Bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Michel Pastoureau. Vous êtes historien, spécialiste de l'héraldique, du symbolisme des couleurs. Vous êtes directeur d'études émérites à l'École pratique de hautes études. Vous avez occupé pendant 35 ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à l'héraldique, aux bestiaires, notamment sur l'ours, le loup, le corbeau peut-être, bientôt.
Le corbeau est en chantier.
En chantier. Et bien évidemment, vous avez écrit de nombreux livres sur l'histoire des couleurs, le bleu en 2000, le noir en 2008, le vert en 2013, le rouge en 2016, et enfin, aujourd'hui, en 2019, le jaune, aux éditions du Seuil. Alors avant de parler du jaune proprement dit, je voulais vous poser des questions sur les couleurs. Juste une première question, c'est pourquoi, avant vos travaux, peu de chercheurs se sont intéressés à l'histoire des couleurs ?
Oui, ça a été ma première réflexion quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est-à-dire il y a 50 ans à peu près, la couleur était la grande absente, non seulement de l'histoire, mais de l'histoire de l'art et même de l'histoire de la peinture. On écrit encore d'ailleurs, de gros livres sur l'œuvre d'un peintre ou sur un mouvement pictural, sans jamais parler des couleurs. Alors, il y a différentes raisons. Il y a un héritage lointain chez les peintres, chez les artistes. Les querelles autour de la primauté du dessin ou du coloris, ça commence à la fin du Moyen Âge, ça s'intensifie au XVIe siècle, ça renaît au XVIIe, puis au XIXe siècle, Ingres contre Delacroix. Et il y a encore un peu de ça. Il y a l'idée que le trait, le dessin, la ligne, ça s'adresse à l'esprit, tandis que la couleur, c'est de la matière, c'est vulgaire. Donc il y a une hiérarchie comme cela, d'ailleurs en milieu universitaire, faire carrière quand on est historien de la peinture en étant spécialiste des couleurs, c'est un très gros handicap. Et puis il y a le fait que nos prédécesseurs ont travaillé pendant longtemps, historiens de l'art, archéologues, sur une documentation en noir et blanc. La photo, bien sûr, mais avant même la photo, la gravure, imprimée à l'encre noire sur du papier blanc. Et au fil des siècles et des décennies, les modes de pensée sont devenus un petit peu en noir et blanc. Et malgré l'accès plus important et rapide à l'image en couleur, j'ai encore aujourd'hui des collègues ou des amis spécialistes de la peinture du XVIIe siècle, qui préfèrent une documentation en noir et blanc pour étudier l'œuvre d'un peintre, Rubens, Poussin, etc., avec l'idée que la couleur, ça gêne le regard, ça triche, ça trompe, ça ne permet pas bien d'étudier le style. Et si je leur dis il existe une stylistique de la couleur, ils ne comprennent pas. C'est quelque chose qui est... Qu'est-ce que Pastoureau veut dire avec sa stylistique de la couleur ? Voilà.
Est-ce qu'il y aurait un peu de misogynie ? Parce que l'idée de la, de, que, ce, que le dessin c'est adresserait à l'esprit, à côté masculin, et les couleurs, c'est plus lié aux sensations, à quelque chose de plus féminin ?
Bien sûr, oui. Ça vient de très loin. Il y a un magnifique tableau de Guido Reni qui montre le dessin et la couleur. Le dessin, c'est un homme, la couleur, c'est une femme. Et il tient la femme comme ça, l'homme le protège, la couleur, c'est plus bas. C'est fragile, c'est parfois incontrôlable.
Une autre difficulté, c'est peut-être de définir qu'est-ce que c'est une couleur. C'est peut-être pour ça aussi que c'était trop
alors
compliqué.
Il y a cela aussi, ça c'est sur le plan théorique. Définir ce qu'est la couleur, c'est un exercice impossible. D'ailleurs, ouvrez un dictionnaire et vous verrez que les auteurs de dictionnaires, au mot couleur, ont un mal fou à dire ce qu'est la couleur. Elle est plurielle. Alors, soit on fait une définition en 50 lignes, mais ce n'est plus une définition. Soit on sélectionne un aspect. Est-ce que c'est une lumière ? Est-ce que c'est une matière ? Est-ce que c'est une sensation ? Est-ce que c'est une perception ? Pour moi, historien, et je pense pour les sciences humaines de manière plus large, la couleur, c'est d'abord une catégorie abstraite. C'est la société qui fait la couleur. C'est pas la nature. Ça n'est pas... même pas l'œil et le cerveau, c'est d'abord la société. Enfin, construis mes livres comme ça, en tout cas. Mais c'est pire au mot couleur. Si vous ouvrez un dictionnaire au mot jaune, par exemple, vous lirez jaune, adjectif, qui est de la couleur de l'or, du safran, du citron. C'est pas faux, mais ce n'est pas une définition. Ou bien vous verrez jaune substantif, couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde. Ça n'est pas faux non plus, mais c'est une définition de physicien pour physicien. Qu'est-ce que les sciences sociales peuvent faire d'une définition pareille ? Absolument rien, mais vraiment absolument rien. Donc il faut chercher ailleurs, je pense. La couleur est rebelle à l'analyse et encore plus rebelle à la synthèse. Donc écrire une histoire des couleurs, ça a l'air facile comme ça. Ça n'est pas facile du tout.
Bon, pour commencer à parler du jaune, spontanément, quand on parle de jaune, on pense au soleil, la lumière, la chaleur, la joie. Et pourtant, c'est la couleur la plus mal aimée, la moins aimée parmi les six couleurs de base. Comment vous expliquez ce déséquilibre des valeurs positives et négatives de la couleur jaune ? Est-ce qu'il y a une raison fondamentale ?
Oui, alors, c'est une couleur mal aimée aujourd'hui, et depuis quelques temps, quelques siècles, mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'Antiquité. Mes livres ne parlent que des sociétés européennes, mais partant de très haut, du paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans les sociétés anciennes, et bon, une bonne partie du Moyen-Âge, le jaune est une couleur bienveillante, bénéfique, qui a une place assez importante dans la vie quotidienne et la culture matérielle. Puis ça se dégrade au cœur du Moyen-Âge. Le mauvais jaune l'emporte sur le bon jaune. Et au fond, on vit encore là-dessus aujourd'hui. Toutes les couleurs sont ambivalentes du point de vue symbolique ordinaire, dans toutes les sociétés. Mais tantôt, selon les époques et les contextes, les bons aspects peuvent être plus nombreux que les mauvais ou inversement. Et pour le jaune, force est de reconnaître qu'à partir du XIVe siècle jusqu'au XXIe, en Europe, les mauvais aspects de la couleur sont plus nombreux que les bons, ce qui est confirmé par les enquêtes d'opinion sur la notion de couleur préférée. On a de telles enquêtes depuis la fin du XIXe siècle. Quelle est votre couleur préférée ? Et on en a des milliers d'enquêtes. Et ce qui est fascinant pour l'historien, c'est que les résultats sont toujours les mêmes depuis 1880 à peu près. En Europe, à peu près identique pour les hommes et pour les femmes, il n'y a pas beaucoup de différence. Le bleu écrase tout, une personne sur deux a le bleu pour couleur préférée, devant le vert, puis le rouge, le noir, le blanc, et en queue de peloton, pour les couleurs de base, le jaune. Voilà, c'est une couleur mal aimée.
Pourtant, tout avait bien commencé avec le jaune dans la période paléolithique, on utilisait l'ocre, les artistes utilisaient l'ocre.
Oui, le jaune, c'est une des premières couleurs que l'homme occidental a fabriquées pour peindre et pour teindre. L'homme a peint bien avant de teindre. Mais donc, dès le paléolithique, dans les grottes, sur les murs, on voit beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, beaucoup de noir, pas mal de jaune. Et le matériau utilisé se trouve à l'intérieur même de la grotte, des terres argileuses, riche en hydroxyde de fer, c'est de l'ocre jaune. Si on le chauffe, d'ailleurs, ça donne de l'ocre rouge. Et donc, c'est un des plus anciens pigments, un des trois plus anciens pigments utilisés par l'être humain, en tout cas en Occident. Et pour la teinture, il faut attendre des dates beaucoup plus récentes, 5-6 000 ans avant notre ère pour l'Europe, et c'est dans la gamme des rouges et dans la gamme des jaunes que l'homme européen atteint le plus tôt. Donc il n'y a pas un problème de difficulté d'approvisionnement, surtout que, aussi bien pour les pigments que pour les colorants, il y a une gamme assez variée. Donc il y a des matières colorantes chères et d'autres bon marché, il y en a qui sont très solides sur le support et d'autres plus évanescentes. Donc il y a tout ce qu'il faut. Donc le problème n'est pas là, il est ailleurs, celui du mauvais jaune.
Et même la période néolithique avec la naissance de l'agriculture, ça valorisait le jaune aussi à travers le blé, enfin j'imagine l'agriculture.
Voilà, la nature fournit pas mal d'éléments jaunes qui sont en général bénéfiques, à commencer par le soleil, et puis les fruits mûrs, les blés mûrs, le miel, la cire, et puis l'or. L'homme européen s'est intéressé à l'or relativement tard. Aux époques préhistoriques, ça ne semble pas intéresser. Il faut attendre le néolithique, et même un néolithique assez avancé, pour qu'on commence à trouver dans des sépultures de l'or en paillettes ou sous d'autres formes, puis des objets fabriqués en or, et puis des dépôts votifs offerts à telle ou telle divinité. Donc ça, c'est 4e, 3e millénaire avant notre ère, et ça s'intensifie, et les mythologies en laissent pas mal de traces. Et donc, dans l'histoire du jaune, dans les sociétés européennes, il y a toujours ce problème de l'or qui est là à côté, et je n'ai pas pu écrire une histoire du jaune sans faire partiellement aussi une histoire de l'or, comme si l'or prenait sur lui les bons aspects de la couleur jaune et ne laissait au jaune stricto sensu que les mauvais aspects. En simplifiant, ça se présente un peu comme ça.
Oui, parce qu'il y a plein de mythologies autour de l'or, mais en même temps, il y a un côté paradoxal. Vous parlez du danger, de la convoitise de l'or à travers les mythes de l'âge d'or, de les pommes des jardins des Hespéries, Jason et Toisan d'or, enfin, toutes ces mythologies. En fait, c'est dangereux de voir convoiter
l'or. Voilà, oui. L'or, c'est à la fois une lumière, une matière et une couleur. Ça complique les problèmes. Mais comme les autres couleurs, il a ses bons et ses mauvais aspects, et beaucoup de récits mythologiques... grec ou germanique ou celte nous explique que la quête de l'or, c'est toujours une quête dangereuse et vaine. Hein. Dans beaucoup d'histoires, les objets en or qu'on a cherché à conquérir, à la fin, retournent à leur place. C'est le cas des pommes d'or du jardin des Hespérides, le 11e travail d'Héraclès. Toutes sortes d'aventures pour aller les chercher dans ce jardin merveilleux. C'est une épreuve. Héraclès y parvient, les rapporte à son cousin Eurysthée, qui n'en veut pas finalement. Héraclès les offre à la déesse Athéna, qui très prudemment va les remettre au jardin des Hespérides. C'est pareil dans la légende de l'or du Rhin, par exemple, cher à Wagner. Cet or au fond du fleuve appartenait aux nymphes du Rhin. Il leur a été volé par les Nibelungen. Les Nibelungen eux-mêmes se sont fait dérober l'or par Siegfried, qui est un personnage très négatif, contrairement à ce qu'on croit. Puis après toutes sortes d'aventures, prudemment, on décide de remettre l'or au fond du Rhin, là où il n'aurait jamais dû quitter sa place. Voilà. Ce qui compte, bien sûr, dans tous ces récits, c'est la quête. C'est pas le but de la quête, c'est la quête.
Vous parlez justement que l'or est à la fois une matière, une lumière, une couleur, mais c'est comme si, la dimension de lumière qu'on pouvait spontanément attribuer au jaune, Aristote le fait, pendant la trilogie blanc, jaune, rouge, il attribue le jaune à la couleur zénitale, mais comme si ça avait été la dimension de lumière chez les jaunes était confisquée par l'or, en fait.
Oui, il y a ce problème-là, en effet. Ça dépend des définitions qu'on donne de la couleur hein, au fil des siècles. La couleur a d'abord été définie comme une matière, puis avec Aristote comme une lumière ou une fraction de la lumière ou une lumière déclinante, puis comme une lumière et une matière par la suite. On hésite beaucoup. C'est indéfinissable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en effet, si l'or prend sur lui l'aspect lumière de la couleur, le jaune, lui, n'est plus que matière.
Justement, oui, parce qu'on en trouve, c'est omniprésent l'or dans l'Antiquité, mais aussi à la période médiévale. On pense aux mosaïques byzantines, on pense à l'orfèvrerie, à l'enluminure. Enfin, ça domine aussi une bonne partie de.
Voilà, on a des miniatures à fond d'or, par exemple, dès l'époque carolingienne, où il y a aussi du jaune dans la miniature, et le statut n'est pas le même. Et puis, dans la peinture italienne, notamment de la fin du Moyen-Âge. C'est fréquent qu'on ait à la fois de l'or et du jaune, et le jaune a toujours le mauvais rôle, bien sûr. C'est une mauvaise couleur, alors que ce qu'on veut embellir ou valoriser est en or, ou le plus souvent doré, d'ailleurs, qu'en or pur.
Donc finalement, enfin, vous racontez que c'est l'héraldique qui va sauver le jaune. Enfin, qui va sauver le jaune. Ça va lui permettre de renaître.
Alors oui, l'héraldique qui apparaît au XIIe siècle, au milieu du XIIe siècle, fait du jaune une couleur à part entière. C'est presque la première fois, au fond, que, on est dans la période où le jaune devient une couleur abstraite qui peut fonctionner indépendamment de sa matérialité. Mais on peut le dire aussi des autres couleurs. Un Romain peut dire j'aime les vêtements jaunes, j'aime les fleurs rouges, je déteste les vêtements bleus des barbares. La couleur est toujours adjectif. Et le propre du passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, c'est que la couleur peut devenir aussi un substantif du point de vue grammatical. C'est signe qu'elle devient quelque chose d'abstrait. Elle peut devenir abstraite. Le jaune, le rouge, le vert, nous, on dit ça tous les jours, mais un Grec ou un Romain ne pourrait pas dire ça. La couleur n'est pas encore une chose en soi. Et aujourd'hui, en 2021, ailleurs qu'en Occident, il n'est pas rare qu'on ait du mal à envisager la couleur comme une chose en soi, indépendamment de sa matérialité, de son support, hein, le rouge, le bleu, le jaune, c'est conceptuel. Eh bien, dans toutes les cultures de la planète, ça n'existe pas. Et en Occident, donc, il faut attendre la fin de l'Antiquité ou le début du Moyen-Âge. Et grâce à l'héraldique, ça s'intensifie, le jaune devient une couleur relativement abstraite, puisque dans les armoiries, les nuances ne comptent absolument pas, hein. Dans les armoiries du roi de France, d'azur semé de fleurs de lys d'or, un champ bleu, qui peut être bleu ciel, bleu moyen, bleu foncé, ça n'a aucune importance, et des fleurs de lys jaunes, qui peuvent être dorées, orangées, tirées vers le verdâtre, ça n'a aucune importance, c'est l'idée de jaune qui compte. C'est la même chose dans les drapeaux. Hein. Le drapeau français, il est tricolore. Aucun texte constitutionnel ne définit le rouge et le bleu du drapeau français. C'est l'idée de bleu, l'idée de rouge et de blanc.
Vous évoquez aussi qu'il n'y a pas que dans l'héraldique que le jaune est valorisé. Il est valorisé dans le prestige des cheveux blonds, dans les romans arthuriens, dans les romans de la Chevalier de la Table Ronde, vous l'évoquez.
Voilà, dans la littérature de chevalerie des 12e et 13e siècles, il y a un prestige des cheveux blonds, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes, le modèle, c'est évidemment la reine Iseult la Blonde, la femme du roi Marc, qui vit cet amour tragique avec Tristan. Mais il y a bien d'autres reines et princesses qui ont les cheveux blonds, comme l'or. Hein, c'est un topos qui revient constamment. Ça ne va pas durer parce que à la fin du Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les modes font comme ça, hein, au fil de l'histoire. Et à la fin du Moyen-Âge, les cheveux blonds passent quelque peu de mode. C'est la cour de Bourgogne en général qui lance les modes à l'échelle européenne pour le vêtement, mais aussi pour la beauté corporelle. Et il se trouve que les grands ducs de Bourgogne sont tous très bruns, avec le teint très mat, sinon foncé, notamment Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Donc, naturellement, ça lance des modes nouvelles. Ensuite, la cour d'Espagne prend le relais, c'est un peu la même chose. Donc ça vaut la peine pour l'historien d'étudier, évidemment, c'est pour les couches supérieures de la société, les modes comme cela de la pilosité et des cosmétiques qui vont avec.
Vous dites que vers la fin du XIIIe siècle, c'est le moment où la symbolique du jaune se dégrade et évoque le dépérissement, le vieillissement, puis après la trahison, le mensonge, et puis encore un troisième niveau jusqu'à l'infamie, jusqu'à le déshonneur. Voilà, c'est de trois niveaux. On peut parler du premier, l'idée que ce soit le jaune, c'est lié à la maladie, à le vieillissement.
Voilà, thématique-là. C'est le décrochement, au fond, et le caractère péjoratif du jaune se met bien en place au XIVe et XVe siècle, et avec différentes idées. D'abord, en effet, le vieillissement, la maladie, la pourriture. Hein. Pensez à un verbe comme « jaunir », c'est pas un verbe valorisant, hein, qu'il soit pronominal ou non. Jaunir, c'est vieillir, c'est se salir, c'est évoluer vers quelque chose de dégradé. Donc le jaune devient partiellement la couleur de la maladie, d'ailleurs. Comme la médecine, à cette époque, il y a pas mal d'influence sur la symbolique des couleurs. Pour le jaune, il y a deux humeurs fort peu nobles qui renvoient à la couleur, la bile et l'urine, c'est pas très valorisant. Et puis, ça va se dégrader plus encore. On va passer de la maladie et du vieillissement vers la folie, et puis vers un certain nombre de vices. D'abord l'envie, hein, les sept péchés capitaux ont leur couleur, et le jaune est la couleur de l'envie, de la jalousie, parfois de la colère, et puis surtout, à partir du XVe siècle, de l'hypocrisie, du mensonge, et enfin de la trahison. Ouais, ça fait beaucoup pour une pauvre couleur.
Mais comment on passe du symbolisme du déclin à celui de la trahison ? Est-ce que vous avez une explication ?
Alors, j'ai cherché, et je n'ai rien trouvé du côté de la couleur elle-même. Hein. Le vert pourrait très bien être couleur de la trahison à cette époque, parce que, aussi bien en peinture qu'en teinture, on sait fabriquer la couleur verte, mais on ne sait pas bien la fixer. Donc c'est une couleur qui évolue, qui triche, qui trompe, hein, qui a l'air d'être belle et puis qui reste pas belle, notamment en peinture, les verres à base de cuivre, ce qu'on appelle nous les verres de gris. Mais pour le jaune, c'est pas ça du tout. Les jaunes sont stables, aussi bien en peinture qu'en teinture, pour l'essentiel. Donc faut chercher ailleurs. J'ai trouvé une piste, ça n'est qu'une piste, du côté du vocabulaire, comme toujours. Dans la culture médiévale, les mots pèsent d'un poids considérable. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais pour l'histoire des couleurs, en Europe en tout cas, l'histoire des termes de couleurs, c'est le premier terrain documentaire qu'il faut fréquenter. Ça m'apprend énormément de choses. Et alors, c'est le même mot qui désigne, aussi bien en latin qu'en langue vernaculaire, qu'en moyen français, la bile et la trahison, félis en latin, félon en ancien français, ça peut expliquer hein, cette mauvaise réputation de la couleur jaune. Un jeu sur les mots, qui est très très banal hein, au Moyen-Âge, qui crée une symbolique et celle-ci devient presque ineffaçable.
En consultant votre livre, vous évoquez quelque chose que je ne connaissais pas, le fauvel, une créature allégorique et littéraire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette créature que je ne connaissais pas ?
Oui, alors, parmi les animaux à pelage jaune, il y en a deux qui sont particulièrement hypocrites et félons. Il y a Renard, le goupil du roman de Renard. Renard, c'est un nom propre, avant de devenir un nom commun. Qui est un personnage rusé. Et au Moyen-Âge, la ruse, ça n'a rien d'admirable. Hein. C'est épouvantable, la ruse. C'est vraiment tricher avec tout, et notamment avec Dieu. Un peu plus tard, à partir de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, un ensemble de textes finissent par constituer un roman de Fauvel. Alors, selon les versions, c'est un cheval ou un âne qui a ce pelage de couleur fauve, jaune fauve, qui est signe de félonie et de tous les vices. Et les auteurs se plaisent à décomposer son nom, F-A-U, transcrivez E-L, avec les initiales d'un certain nombre d'envies. E, c'est de vice. E, c'est l'envie. L, c'est la luxure. V, c'est la vilénie. A, c'est l'avarice. Et F, c'est la félonie, la fausseté et d'autres choses encore. Bon, ce sont des jeux littéraires, mais qui traduisent bien un courant de pensée assez général. C'est le moment où vraiment le jaune et toutes les colorations qui s'y rattachent deviennent négatives.
On ne peut pas ne pas évoquer le jaune qui était l'attribut de Judas dans les représentations.
Voilà, c'est dans la filiation. Hein, le pelage de Renard est roux. Le pelage de Fauvel est plutôt fauve. Et la robe et les cheveux de Judas dans l'iconographie à partir du XIIIe siècle, la robe va être jaune et les cheveux roux pour signifier que ce personnage, c'est l'apôtre qui a trahi le Christ, c'est l'apôtre félon, ça devient le traître par excellence. Et ça n'est pas absolument systématique, mais c'est très récurrent quand même, du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, de représenter Judas avec des cheveux roux et une robe jaune. Et ce sont deux attributs très, très négatifs.
Et ça, même, ça va être un signe d'infamie, parce que vous évoquez sur les maisons peintes en jaune. L'idée fait que c'est plus encore de la trahison.
Oui, ça devient un signe infamant. Il y a d'autres pratiques qui soulignent ce caractère plus ou moins infamant de la couleur jaune. Le fait de peindre en jaune les maisons des traîtres, des faux monnayeurs, des coupables de crimes de lèse-majesté, par exemple le connétable de Bourbon dans les années 1520, un connétable de France, grand soldat qui avait contribué à la victoire de Marignan, se fâche avec la mère du roi François Ier, donc Louise de Savoie, pour une histoire d'héritage. Le Parlement donne raison à Louise de Savoie. Le connétable de Bourbon, qui, selon nos principes à nous d'aujourd'hui, avait raison contre Louise de Savoie, s'estime victime, passe à l'ennemi. Donc il est traître au royaume de France et à la dynastie des Valois. Il se met au service de Charles Quint. Il remporte l'immense victoire à Pavie, où François Ier est fait prisonnier. Et pendant ce temps-là, son hôtel parisien, qui était près du Louvre, est entièrement peint de jaune, couleur de la trahison. On aura la même chose quelques décennies plus tard avec l'amiral de Coligny, après qu'il a été massacré pendant la nuit de la Saint-Barthélemy. Son hôtel, qui est juste à côté de celui du connétable de Bourbon, est également peint en jaune. On pense qu'on l'assimile à un traître. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, il y a les signes discriminatoires, douloureux, imposés à certaines communautés, notamment les communautés juives, des signes vestimentaires. L'idée, c'est que les non-chrétiens ne se confondent pas avec les chrétiens. Donc, dans certaines régions, dans certaines villes, pas partout, port d'un signe particulier sur l'épaule, sur la poitrine, sur le dos, ça varie beaucoup. Deux formes variables également, le plus fréquemment, c'est un cercle, une rouelle, mais ça peut être aussi une étoile ou autre chose. De couleurs variées, rouge, blanc et rouge, mais surtout jaune. Hein. Et on peut voir là, évidemment, l'ancêtre de l'étoile jaune. Oui. Donc, surtout au XVe siècle, à partir du XVe siècle.
Vous expliquez aussi que c'est la couleur de tous ceux qui sont en marge de la société, en fait, au-delà de la traîtrise, c'est tous
les marginaux, oui. Les sociétés du Moyen-Âge finissant ont beaucoup de mal avec ceux qui se situent sur les marges. Exclu, réprouvé à un titre ou à un autre, donc non chrétien, infirme, coupable de ceci ou cela, ou même ceux qui exercent un métier à la limite de la légalité, les prostituées bien sûr, mais aussi les bouchers par exemple, les bourreaux, les médecins, les musiciens, les jongleurs, souvent ont des insignes vestimentaires qui soulignent le caractère particulier de leur profession.
Avec l'époque moderne, bon, la couleur jaune aussi, on pense surtout, vous parlez de chromoclasme. Alors, je ne sais pas si c'est un néologisme ou si ça existe vraiment, mais en tout cas, le jaune, évidemment, n'a pas souffert de cette...
Oui, chromoclasme, ça fait longtemps que je l'emploie, je crois que c'est moi qui ai inventé le mot, mais d'autres parlent de chromophobie. En tout cas, on parle souvent de l'iconoclasme protestant, mais on oublie de parler du chromoclasme protestant. Les grands réformateurs du XVIe siècle, dans leurs prêches, dans leurs écrits, distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes pour un bon chrétien. Les couleurs honnêtes sont le blanc, le noir, le gris, le bleu, le brun. Et les couleurs déshonnêtes, ce sont celles qui se voient trop. Le rouge, le vert, le jaune... Ce sont des couleurs qu'il faut fuir si on veut être un bon chrétien. Et là-dessus, ils sont tous d'accord. Calvin et Zwingli sont les plus drastiques. À Genève, être pris en habit rouge sous Calvin, c'est parfois le bûcher. Hein. C'est la couleur des papistes, en plus. Alors, le jaune est dans le mauvais groupe et ça a des conséquences de longue durée. Au Moyen-Âge, c'est pas rare qu'un homme s'habille entièrement de jaune. À partir du XVIe siècle, ça devient plus rare dans l'Europe protestante, bien sûr, mais aussi dans l'Europe catholique, parce que un peu plus tard, sur beaucoup de points, la contre-réforme catholique s'oppose à la réforme protestante, mais sur celui-ci, les morales de la vie quotidienne et du vêtement, elle partage son point de vue. Hein, et elle adopte cette idée qu'il y a au fond des couleurs qu'il faut fuir, et on vit encore là-dessus. Hein. L'idée, c'est très très important dans la culture européenne chrétienne, l'idée est que Adam et Ève étaient tout nus au paradis terrestre. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont fauté, ils ont été chassés du paradis. Et à la sortie, en signe de faute, on leur a remis un vêtement pour cacher leur nudité. Donc pour les valeurs chrétiennes, le vêtement rappelle toujours le péché originel. C'est pour ça que vouloir se faire remarquer par le vêtement, s'embellir par le vêtement, c'est absolument immoral, indécent. C'est une faute contre Dieu, c'est une violence faite aux autres, et c'est un désordre social. Et alors, les couleurs qui se remarquent sont des couleurs qui créent du désordre social et qui font de la violence pour les autres. Donc, une bonne partie de la population, même totalement déchristianisée, aujourd'hui, vit avec cette idée-là, et les fabricants de vêtements le savent très très bien.
Donc, nos jeunes sont assez discrets au 16e, 17e, et vous parlez au 18e, qu'il y a une espèce de, il y a la mode de l'Orient qui fait que le jeune devient un peu dans certaines tranches de la société, en tout cas à la mode.
Voilà, oui, le jaune, donc, à cause de la réforme, puis de la contre-réforme, devient plus rare dans la vie quotidienne, dans la culture matérielle. On le voit bien avec les inventaires après décès, par exemple, qui parlent pas mal des couleurs. Il y a peu de jaune hein, au XVIe et au XVIIe siècle, dans l'environnement quotidien. Il y en a un peu, quand même, pour pas exagérer. Et le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, mais aussi siècle des couleurs. Il est plus coloré hein, entre un XVIIe siècle très sombre et un XIXe siècle assez sombre. Le XVIIIe siècle, c'est une sorte d'oasis colorée. Et pour la première fois, d'ailleurs, du point de vue textile et vestimentaire, les classes moyennes ont droit à des couleurs vives et solides grâce au progrès de la teinturerie. Donc, si les classes moyennes ont droit aux couleurs vives, les couches supérieures de la société, pour s'en distinguer, pratiquent les demi-tons, les couleurs pastels, les jaunes pâles, les gris pâles, les bleus ciel, les roses. C'est ça, le milieu du XVIIIe siècle, auquel s'ajoute la mode de l'Orient. Les missionnaires sont nombreux à partir vers l'Orient, faire des rapports et des récits, souligner l'omniprésence du jaune dans la vie quotidienne de l'Extrême-Orient, notamment de la Chine, rappeler combien l'empereur et tout ce qui l'entoure ont à voir avec la couleur jaune. Donc il y a la naissance en Europe d'un jaune oriental ou asiatique, pourrait-on dire, de longue durée, puisque quand on crée la série des anneaux olympiques, en 1912, le jaune, c'est l'anneau pour l'Asie. Voilà. Alors qu'il n'y a pas spécialement de raison. Plus tard, au tournant des 18e, 19e siècles, on va commencer à classer les races, entre guillemets, par couleur, sans les hiérarchiser, ce n'est pas encore le racisme. Et il y a l'idée que les races asiatiques ont à voir avec la peau jaune, les races américaines avec la peau rouge, les races africaines avec la peau noire. Ça n'est pas encore systématique, c'est embryonnaire. Ça va se développer au 19e siècle.
Du jaune, il est assez peu présent en peinture, mais il y a quand même quelques éléments. On trouve du jaune dans la peinture hollandaise au moins 17e, et après, vraiment, il faut attendre le 20e siècle pour que le jaune vraiment en peinture soit vraiment.
Alors, oui, c'est vrai que quand on visite un musée avec les salles de peinture, entre la fin du Moyen-Âge et les impressionnistes, on a l'impression que tout est marron, souvent. Hein, mais c'est la faute des vernis et des dévernis et des revernis et des pigments qui ont évolué. Mais honnêtement, il y a peu de jaune quand même dans la peinture européenne. des 16e, 17e et même 18e siècles, c'est toujours un accent. Ça n'est jamais une couleur principale. Vermeer, par exemple, qui est un immense peintre des jaunes, n'emploie jamais le jaune en grande surface ou très très rarement. C'est toujours une petite touche qui équilibre d'ailleurs en général chromatiquement le tableau. Il faut attendre la peinture de plein air pour que le jaune devienne plus fréquent dans les tableaux. Invention du tube dans les années 1840, c'est un immense progrès. Le peintre peut aller sur le terrain avec ses couleurs, qu'il ne fabrique plus lui-même dans l'atelier, mais qu'il achète chez un marchand de couleurs. Et 10 ou 12 ans plus tard, invention du bouchon à vis pour fermer le tube. Au début, on fermait avec des pinces. Le bouchon à vis, c'est la plus grande date dans l'histoire de la peinture. Ça n'a l'air de rien. Et peut-être du dentifrice aussi, mais en tout cas, ça ne sèche plus dans le tube. Et donc, à partir de 1850-60, la peinture de plein air se multiplie et l'observation de la nature, le rendu de la lumière, etc., favorise la mise en scène de jaunes plus nombreux. Et puis après les impressionnistes et les post-impressionnistes, ce sont les avant-gardes du tournant du siècle qui donnent au jaune une place de plus en plus large, notamment les fauves. Avant les fauves, Van Gogh et Gauguin sont deux très grands peintres des jaunes. Vous le savez tous, il y a énormément de jaunes chez ces deux peintres. Van Gogh a été trahi un peu par ces jaunes parce que, comme il était très pauvre, il achetait du jaune de chrome, qui est une couleur qui, chimiquement, une couleur de synthèse, qui tient mal, alors que le jaune de cadmium aurait mieux tenu, mais coûtait plus cher, 5 fois plus cher. Donc ces tournesols jaunes, souvent, sont devenus bruns. Mais après eux, ce sont les fauves, donc des jeunes peintres des années 1905-1910 qui pratiquent les couleurs violentes et l'arbitraire total, n'importe quoi, peut-être de n'importe quelle couleur chez les fauves dans le tableau. Donc Matisse jeune, Derain jeune, Marquet jeune, Laminck, Vandongen et quelques autres. Ce sont des jaunes et des orangés très violents, très beaux. Et ça va continuer. Donc ceux qui redonnent leur lettre de noblesse au jaune, au fond, à partir de la fin du 19e siècle, ce sont d'une part les peintres et de l'autre les sportifs. Oui. Quand naît le sport moderne, à partir des années 1880, d'abord dans les collèges écossais, puis dans les collèges anglais, on crée des maillots d'équipe. D'abord, tout tourne autour de blanc et noir, puis on introduit du bleu et du rouge, et puis avant la Première Guerre mondiale, le jaune et le vert rejoignent les 4 autres, et les maillots s'organisent autour de 6 couleurs. Le jaune devient une couleur présente sur les terrains de sport, et même assez abondamment présente, les restées. Mais le moment décisif, bien sûr, c'est 1919, la création du maillot jaune dans le Tour de France, en plein Tour de France. Au mois de juillet 1919, le directeur du Tour a l'idée d'habiller le premier du classement général d'un maillot distinctif. Et il choisit la couleur jaune parce que le journal qui organise le Tour de France, l'Auto, ancêtre de l'équipe, est imprimé sur un papier bon marché jaunasse. C'est une opération publicitaire. Et donc, je crois que c'est au cours d'une étape Grenoble-Genève, ou Genève-Grenoble, je crois que c'est Grenoble-Genève, qu'à l'arrivée, le premier a reçu le maillot jaune, s'appelait Eugène Christophe, il n'a jamais gagné le Tour de France. Il a failli plusieurs fois, mais il n'a jamais gagné. Et c'est un coup de génie, parce que ça fait beaucoup pour le cyclisme, pour le Tour de France, mais bien au-delà, l'expression maillot jaune quitte le monde du sport pour être employée dans d'autres domaines, notamment dans l'industrie, l'économie, où on est maillot jaune, telle ou telle firme est maillot jaune dans la pétrochimie, dans les compagnies d'assurance, elle devance ses concurrents. Et pas seulement en français, l'expression passe dans les langues des pays voisins. C'est vraiment un grand moment pour l'histoire du jaune que ce mois de juillet 1919.
En plus anecdotique, vous parlez des balles de tennis, du vin jaune, du carton jaune, si en football.
Voilà, alors il y a bien sûr, il y a le carton jaune qui est apparu dans la pendant la Coupe du Monde au Mexique en 1970. C'est intéressant parce que dans ce système, deux jaunes égale un rouge. Jaune, c'est l'avertissement, rouge, c'est l'exclusion. Donc il y a l'idée que le jaune, c'est un demi-rouge, au fond. Intéressant pour l'histoire des couleurs. Il y a la balle jaune aussi, ça c'est la télévision qui l'a imposée au tennis. Les joueurs étaient contre, hein, la plupart des joueurs étaient contre. Borg, qui disait jamais rien, là est devenu déchaîné contre la balle jaune. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, elle n'est pas obligatoire. On peut encore avoir des grandes compétitions avec des balles blanches ou orangées, pas nécessairement jaunes. Mais enfin, peu à peu, la balle jaune c'est devenu emblématique du tennis.
Le jaune a beaucoup souffert de l'or, mais est-ce qu'il a aussi souffert de l'orange ? La confiance de l'orange ou pas ?
Alors oui, l'orange, j'aurais du mal à faire une histoire de l'oranger dans les sociétés européennes parce que cette histoire serait assez courte de l'oranger dans la nature, mais de l'oranger fabriqué par l'être humain, au fond, faut, aussi bien en peinture qu'en teinture, il faut attendre la fin du Moyen Âge, l'importation de matières colorantes. Pas nouvelles, mais qu'on connaissait, mais qu'on employait timidement, qui venaient des Indes et de Ceylan, notamment le bois de Brésil, c'est-à-dire le bois d'un arbre tropical qui a des vertus tinctoriales. C'est ce même bois, d'ailleurs, que les Européens ont trouvé dans le nord de l'Amérique du Sud, avec un pouvoir colorant encore plus grand que celui des Indes. Et ça a donné son nom au pays, le Brésil. Mais avant, c'est Brasileum en latin, c'est le nom d'un produit tinctorial dont se servent aussi un peu les peintres. Donc l'histoire de l'oranger commence quelque part par là, avec des hauts et des bas, une couleur dont on se méfie ou qu'on admire selon les époques, qui se situe sur les marges du jaune ou entre jaune et rouge, à partir du moment où on a découvert le spectre à la fin du XVIIe siècle, un nouvel ordre des couleurs, où en effet l'oranger est entre jaune et rouge, ce qui n'était pas le cas auparavant, prend presque une existence autonome à partir du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est une couleur qui passe pour tonique. La symbolique de l'orange, un fruit plein de vertus, évidemment bénéficie à l'oranger. Le mot d'ailleurs pose des problèmes en français. Faut-il dire orange, oranger quand il est adjectif? Moi je recommande oranger, ça permet de faire l'accord en genre et en nombre, tout banalement. Alors que si vous dites orange, les puristes ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce qu'on fait l'accord du pluriel? Est-ce qu'on ne le fait pas? Pour rose, on le fait, donc il faudrait le faire pour orange, mais il y en a qui sont contre. Bon, oranger est mieux. L'orange, c'est le fruit, la couleur, c'est l'oranger.
Pourquoi nos boîtes aux lettres et la poste et souvent les taxis sont jaunes ?
Oui, alors, vous trouverez des explications positivistes dans beaucoup de livres. Dans le spectacle de la rue où le jaune n'est pas fréquent, une boîte aux lettres jaune, ça se voit, c'est un objet qui doit se voir. Dans le brouillard des grandes villes, un taxi jaune, une grande ville américaine par exemple, ça se voit, donc le choix de cette couleur aurait été lié à des raisons matérielles. Ça ne résiste pas à l'analyse historique. C'est la même famille en Europe qui a créé et la poste et les taxis. La famille Thurn und Taxis, une toute petite famille lombarde, mais qui avait la chance de posséder des cols alpins et de faire payer une taxe, notamment une partie du col du Brenner, le seul passage à ciel ouvert entre l'Europe du Nord et l'Europe du Midi pendant des millénaires. Et cette famille, cette petite famille, hein, aux confins du monde latin et germanique, est chargé par l'empereur du Saint-Empire au XVe siècle d'organiser la poste dans le Saint-Empire, poste à cheval bien sûr. Ce qu'elle fait impeccablement, elle prend de l'importance, elle devient non seulement non plus italienne, mais aussi suisse et allemande et autrichienne. Ça devient une famille princière au XVIIIe siècle. Vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, elle invente cette famille des Tournun Taxis, les taxis hippomobiles. Avant les taxis automobiles, il y avait les taxis hippomobiles. D'ailleurs, le nom taxi vient du nom de la famille. Hein. Tasso, en italien, taxus, en latin, c'est le nom de l'if, de l'arbre, l'if. Et donc, il y a un lien entre la poste et les taxis par cette famille, qui est aujourd'hui une des familles les plus riches du monde, sinon la plus riche. Donc, ça, c'est une très, très belle histoire, parce que c'est vraiment des tout petits seigneurs féodaux de l'extrême nord de l'Italie actuelle, aux confins de la Valteline, et qui devient donc celle qui a mis en scène toute la poste européenne et les taxis. D'où cette couleur jaune qui est sa couleur emblématique, la couleur de d'une des figures de ses armoiries, puis de sa livrée, puis de la poste, puis des taxis hippomobiles, puis des taxis automobiles, et ainsi de suite.
Parmi les expressions de la langue française, il y a « être un jaune ». Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de ce que ça veut dire « être un jaune » ?
Ben, il y a l'idée de trahison, donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. L'expression apparaît dans les mouvements, dans les grandes grèves de la fin du XIXe siècle, autour du Creusot et ailleurs, dans le monde ouvrier, des ouvriers qui ne veulent pas adhérer à des syndicats rouges, c'est-à-dire de gauche ou d'extrême-gauche, nous dirions nous aujourd'hui, créent de nouveaux syndicats jaunes que les autres accusent de rouler pour le patronat et de ne pas défendre le monde ouvrier. Donc ça devient la couleur des traîtres. Et être un jaune, plus banalement, c'est être un traître dans l'argot ou l'argotisation des termes de couleur. Ça apparaît donc vers 1890-95. Et c'est encore assez fréquent aujourd'hui d'employer cette expression.
Le jaune est assez peu présent en politique, sauf aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des 5 étoiles. Pourquoi le jaune était peu utilisé ? Enfin, j'imagine.
Alors oui, on en a parlé. Mais... C'est vrai, oui. Donc, depuis la Révolution française, on s'emblématise par la couleur quand on est un parti politique, un mouvement politique, même un mouvement simplement idéologique. Mais on est là dans un domaine où les nuances ne comptent absolument pas. Donc le choix est restreint. Il n'y a pas tellement de couleurs, comme les nuances ne comptent pas. Et puis il y a des couleurs qui sont déjà prises. Le rouge, plutôt pour les partis progressistes. Le jaune, le bleu pour les partis conservateurs. Le noir, c'était les partis de l'Église, puis c'est devenu la couleur des anarchistes et des nihilistes, le blanc est royaliste, et on est, le vert est devenu écologiste, et le jaune était soigneusement évité parce que c'était la couleur des traîtres, donc évidemment, on ne puisait pas dans le jaune. Et puis, avec des mouvements nouveaux, à partir des années 50, il a bien fallu puiser dans les couleurs non utilisées, l'oranger notamment. Le jaune, je crois que c'est le parti libéral allemand qui l'a fait en premier, ce parti qui s'allie tantôt à la CDU, tantôt au SPD, ce qui l'accuse de retourner sa veste, la couleur jaune qu'on connaît parfaitement. Et plus récemment, donc en Italie, le mouvement 5 étoiles a choisi la couleur qui restait, en plus qui renvoyait pas une idéologie déjà en place, hein, qui se voulait soit autre chose, soit rassembleuse. Et plus récemment, donc nos gilets jaunes, là aussi, c'est dans l'absolu, comme ça, sur le plan théorique, une couleur qui n'était pas utilisée en France. Est-ce qu'elle va continuer de l'être ? Est-ce que ça va durer ou non ? J'étais dans le cas de l'historien qui, quand il arrivait à la dernière page de son livre, a été rattrapé par l'histoire en train de se faire, puisque je devais rendre ma copie fin novembre 2018, et puis le mouvement des Gilets jaunes est arrivé. Donc, je n'ai rien écrit sur les Gilets jaunes, mais j'ai écrit quand même une page sur le jaune en politique et m'interrogeant sur son avenir. Ça m'était déjà arrivé il y a assez longtemps. En 89, j'écrivais une histoire de l'Europe et au moment où j'avais fini, le mur de Berlin est tombé. ça a changé pas mal de choses sur mon dernier chapitre. Donc voilà, c'est l'historien rattrapé par l'histoire. Donc c'est un peu ça aussi, mais nous n'avons pas le recul pour voir ce que ça va devenir. Ce qui m'étonne quand même, c'est le choix de cette couleur. Au départ, c'est une affaire automobile. Prix de l'essence, limitation de vitesse. Donc on prend un objet qui est dans la voiture, on en fait un emblème. Mais une partie de la population a dans sa voiture un gilet orangé. Les stations-service vendent aussi des gilets orangés qui sont tout à fait réglementaires. Et donc, on a choisi le jaune. Quelquefois, je me dis, l'orangé aurait été peut-être mieux venu parce qu'il n'a pas cette réputation de mauvaise couleur qu'a le jaune. Attendons de voir si le jaune est une couleur d'avenir en politique, et plus qu'en politique, dans notre vie quotidienne, le jaune est tellement peu présent, tellement peu fréquent, aussi bien dans le spectacle de la rue que dans nos appartements ou nos maisons, il y a du jaune, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que je termine mon livre en disant que si j'étais un créateur, un designer, un styliste, j'investirais dans le jaune. Il y a une place à prendre parce qu'elle est tellement faible qu'elle ne peut qu'augmenter, me semble-t-il.
En même temps, Karl Lagerfeld, dans la campagne qu'il avait faite pour la sécurité routière, disait le jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut sauver une vie. Mais voilà, il parlait plus du gilet que de la couleur.
Oui, c'est Karl Lagerfeld qui faisait l'agent de promotion. C'est vrai que la signalétique utilise beaucoup le jaune, puisqu'on le voit très peu par ailleurs. Évidemment, on le repère sur les panneaux, sur les signaux, sur les drapeaux. Le jaune a une place importante. En outre, des tests montrent que c'est une couleur qui se voit, du moins pour un œil occidental, parce qu'on ne peut pas généraliser ces problèmes de vision des couleurs, de perception, qu'est-ce qui se voit bien, sur quel fond, etc. Mais enfin, pour un œil occidental, c'est vrai que le jaune est une couleur qui se voit. Et comme elle est peu présente dans notre culture matérielle, elle fait écart et elle se repère tout de suite. C'est un atout pour le jaune.
Votre prochain livre, le blanc, donc, on espère.
Alors oui, alors là, j'arrive au cinquième livre monographique sur l'histoire d'une couleur. Évidemment, c'est un prétexte. À chaque fois, je parle des autres couleurs. On ne peut pas isoler, ça n'a pas de sens même, d'isoler une couleur toute seule. Une couleur ne prend du sens qu'associée ou opposée à une ou plusieurs autres couleurs. Donc j'en suis à, je sais pas, 1600, 1800 pages sur l'histoire des couleurs. J'ai légendé longuement 700, 800 images. Je commence à me répéter. Je pensais m'arrêter, et puis en réfléchissant, je me dis, mais le blanc, qui est une des six couleurs de base, pour les sciences humaines, le blanc est une couleur, bien sûr, je l'ai traité un peu avec le noir, mais j'en ai pas dit assez, d'autant que le blanc n'est le contraire du noir en Europe que assez récemment. Il faut attendre l'imprimerie et la gravure. Avant, le contraire du blanc, c'est le rouge, c'est pas le noir. Donc il faudrait que je reprenne tout cela et que je consacre un livre à l'histoire sociale et culturelle du blanc en Europe. Et en même temps, je suis assez chatouillé par le gris, qui est une couleur aussi très, très intéressante. Tant que le blanc n'est pas le contraire du noir, n'ont pas un palier intermédiaire qui serait le gris. Donc le gris, c'est autre chose. En général, c'est le mélange de toutes les couleurs. Aujourd'hui, le gris, à mon avis, c'est ce qui exprime le mieux l'idée d'un color. Le blanc n'est plus un color aujourd'hui. C'est le gris qui assume ce rôle. Donc voilà, j'en suis là de mes réflexions. Mais j'ai envie de reprendre la plume pour parler de mon autre sujet de prédilection, l'histoire culturelle des animaux. Je vais faire une pause couleur, en quelque sorte. Et, donc j'ai dit que le corbeau était en chantier. Ça fait 50 ans que j'accumule des notes sur l'histoire culturelle du corbeau en Europe. Je suis dans l'état du chercheur écrasé par sa documentation. Enfin, j'espère que je vais m'en sortir. Et puis, j'ai écrit un loup l'année dernière qui a... Et le premier d'une série, mon éditeur souhaiterait que je continue, donc sont à l'étude le taureau, la baleine, le cygne, l'âne et quelques autres.
Merci beaucoup.